Sylvie Brunel, bonjour. Vous publiez Manuel de guérison à l'usage des femmes aux éditions Albin Michel. Est-ce que ce livre fait écho à celui que vous aviez publié précédemment, qui s'appelait, je crois, le Manuel de guérilla
à l'usage des femmes? Eh ben vous, oui, tout à fait. Il y a 10 ans, je publiais un livre qui était un livre de la colère, un livre d'une sorte de déploration de ce que la société inflige aux femmes quand elles atteignent leur mi-vie. Et puis 10 ans plus tard, c'est un livre de la guérison, un livre de la résilience, un livre du bonheur, c'est-à-dire que prendre de l'âge pour une femme en France à la fin du 21e siècle, ou au milieu du 21e siècle, eh bien, c'est un grand bonheur.
Alors, ce livre est très personnel.
Il est à la fois personnel, mais il est aussi très documenté par tout un ensemble de textes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le monde est extrêmement, la France est extrêmement ouverte à l'explosion de des littératures féminines. Il n'y a jamais eu autant de femmes qui prennent la parole, et c'est bien, et ce livre s'inscrit dans cette prise de parole féminine.
Et les hommes dans tout ça ?
Eh bien, les hommes, ils ont tout à fait leur place, les hommes sont aimés, mais en même temps, je pense que les hommes doivent comprendre que les femmes aspirent à une pleine reconnaissance de leur place dans la société, et une reconnaissance qui ne soit pas l'identité par rapport aux hommes. Nous ne sommes pas similaires aux hommes, ne serait-ce que parce que nous avons la maternité, les règles, la ménopause, mais en revanche, nous aspirons à prendre pleinement notre place. Et quand on regarde à la fois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et puis le passé, on se rend compte que, eh bien, la marche est loin d'être terminée, que nous nous heurtons toujours à un certain nombre de violences réelles, hein, des violences, on sait bien que le 24 novembre, c'est la journée mondiale des violences faites aux femmes, des violences réelles, et puis aussi des violences symboliques, des violences psychiques, et il est important que la parole des femmes se libère.
Alors, on a le sentiment que, à travers l'histoire, que la place de la femme a été toujours particulière. Mais que derrière un homme, on trouvait très souvent une femme.
Mais vous avez totalement raison. L'histoire, c'est l'histoire de l'invisibilité des femmes. Et ce qui est marquant, c'est que dans l'histoire de l'humanité, tout a été organisé pour que la femme qui était à l'origine finalement de la naissance et des enfants soit cantonnée à des rôles domestiques, des rôles au foyer. Et il y a très peu de temps finalement, uniquement en Occident, que les femmes ont eu accès à la fois à l'éducation. Vous vous rendez compte que les Nations Unies attendent 1990 pour parler de l'égalité d'accès à l'éducation des hommes et des femmes, et puis pour qu'elles prennent pleinement leur place aussi dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Et c'est quelque chose de tellement récent qu'on a tendance à oublier à quel point il a fallu que les suffragettes à la fin du 19e siècle, les femmes du MLF dans les années 70, et puis aujourd'hui les femmes de MeToo, eh bien se battent tout en étant férocement critiquées à chaque fois pour dire mais laissez-nous occuper notre place, laissez-nous en pleine égalité avec la moitié masculine de l'humanité, laissez-nous être ce que nous sommes, mais aussi avec nos spécificités féminines.
Alors on rencontre quand même dans actuellement, beaucoup de femmes, si l'on prend simplement en politique, beaucoup de femmes de pouvoir. Alors, je ne vais pas parler uniquement d'Angela Merkel, mais ou de Margaret Thatcher précédemment.
Alors, vous avez raison. Quand vous dites beaucoup, vous savez, dans le monde, dans les 195 pays reconnus par l'ONU, il y en a moins de 10 qui sont quand même présidés par une femme. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance aujourd'hui de la présence féminine. Par exemple, le Rwanda, c'est le seul pays d'Afrique où vous avez une parité parfaite. Mais à part en Europe du Nord, les femmes sont souvent à des postes subalternes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent dans le sillage des hommes, et on sait bien qu'à compétences égales, elles sont souvent moins bien payées, que leur temps de travail est moins pris en compte, qu'elles sont désavantagées au moment des divorces ou des successions. Et c'est important de se dire que sans animosité, sans agressivité, il faut que nous disions nous avons à la fois nos compétences. Et d'ailleurs, c'est même un problème parce que dans les universités aujourd'hui, les filles ont souvent de meilleurs résultats que les garçons, au point qu'aux États-Unis, les facultés sont obligées de faire de la discrimination positive à l'égard des garçons parce que sinon, elles n'ont plus que des filles, ce qui est quand même marquant. Et on a l'impression quand même qu'il y a une peur masculine de cette émergence des femmes.
Est-ce qu'il y a un regard des hommes, de l'homme tout simplement, qui a pu changer, ou est-ce que c'est simplement toujours l'apparence?
Alors, les femmes sont systématiquement renvoyées à leur attractivité sexuelle, et c'est pour ça que dans mon manuel de guérison, je dis que vieillir est une libération parce que vous vous libérez de ce renvoi à votre apparence physique, vous pouvez être pleinement vous-même. Il n'empêche que, et vous le savez bien, dans un grand nombre de pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les femmes sont toujours exposées à des violences colossales simplement à cause de leur corps. Et c'est vrai aussi dans les villes, un géographe s'appelle Yves Rébaud, dit que les villes sont l'espace du mal, le mal masculin et le mal par opposition au bien, c'est-à-dire que l'insécurité reste une réalité pour les femmes aujourd'hui. Il nous reste à penser à un monde qui soit fait pour les femmes et peut-être aussi par les femmes, dans l'outillage, dans tout un ensemble de choses. Je parle dans le livre de la difficulté, par exemple, à utiliser les outils du quotidien, parce que souvent ils sont conditionnés par une certaine force physique.
Alors, ce livre parle de la soixantaine. Est-ce que vous auriez écrit la même chose à 30 ans?
Mais non, parce que comme toutes les jeunes femmes à 30 ans, je n'avais qu'une peur, c'était de perdre ma capacité de séduction, c'était de me dire qu'est-ce que je vais devenir quand finalement ce qui faisait ma spécificité physique va s'effacer. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes sont élevées à la fois dans cette désir de plaire que cultivent d'ailleurs les magazines féminins, et puis dans cette attente du prince charmant qui va les combler, ce que Colette Downing appelle le syndrome de Cendrillon. Et ce qui est merveilleux chez nous, hein, en France, en Occident, c'est que quand vous prenez de l'âge, eh bien vous vous libérez de ces deux peurs, vous vous libérez de la dépendance affective, et vous vous libérez de ce fait d'être perpétuellement renvoyé à votre physique. Alors bien sûr, d'une certaine façon, vous devenez invisible, vous devenez un peu transparente, mais en même temps, vous existez au moins professionnellement pour vos compétences, pour vos qualifications. On vous voit d'abord pour ce que vous apportez et non pour l'apparence que vous êtes.
Alors la notion de couple est aussi importante et elle a beaucoup évolué aussi. Dans les années 60, une jeune fille disait « je veux me marier et avoir des enfants ». Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le mariage a du plomb dans l'aile, les enfants, les familles sont moins nombreuses qu'elles ne pouvaient l'être il y a 60 ans par exemple. Et puis, les couples ne durent pas, ou durent beaucoup moins.
Oui, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez dit. D'abord, un quart des familles en France sont aujourd'hui monoparentales, et souvent ce sont donc des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Ensuite, la reconnaissance professionnelle des femmes est très récente, puisque vous savez qu'avant 1967, elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari, que l'autorisation parentale conjointe n'a été accordée qu'en 1993. Donc, l'émancipation professionnelle féminine est très récente, mais la contrepartie, c'est que souvent les femmes se retrouvent seules à devoir gérer leurs enfants, parce que la libération des femmes, ça a été aussi la libération des hommes. Et un certain nombre d'hommes, aujourd'hui, estiment qu'ils n'ont plus à prendre en charge une femme, que chacun doit être autonome. Donc, ça veut dire que pour les femmes, c'est à la fois stimulant et difficile. On sait bien qu'elles vivent avec des niveaux de vie souvent inférieurs à ceux des hommes, qu'elles ont des tâches maternelles qu'elles doivent concilier avec leurs tâches professionnelles. On sait bien qu'elles sont désavantagées économiquement pour beaucoup d'entre elles. Donc c'est une marche qui, pour l'instant, se traduit par une charge accrue pour les femmes, ce qui est quand même le comble. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont conscients de cela. Vraiment, il faut savoir que l'homme macho et cultivant la virilité, eh bien, il est quand même en passe d'être dépassé par de nouveaux hommes, des hommes qui sont beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus attentifs à la situation de leur compagne ou de leur partenaire simplement professionnel. Donc, les choses vont dans le bon sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il ne faut pas d'agressivité, il ne faut pas remplacer une suprématie masculine par une suprématie féminine, mais il n'empêche qu'il faut être conscient que pour les femmes, c'est quand même compliqué. C'est compliqué à toutes les phases de leur existence et qu'elles ont besoin aussi de se sentir bien. Et mon message, c'est de leur dire, sachez que prendre de l'âge, c'est acquérir la liberté et le bonheur.
Alors là, vous parlez de l'Occident. Dans d'autres pays, sur d'autres continents, les choses sont un peu différentes.
Totalement.
Je crois que votre maman était polynésienne.
Oui, alors ma grand-mère a grandi et est née en Polynésie. Et moi-même, vous savez, j'ai travaillé longtemps dans l'humanitaire.
Tout à fait.
Et je suis confrontée chaque fois que je quitte l'espace européen, qui est un espace confortable, en tout cas l'Europe du Nord, parce que on a aussi des pays latins, hein, méditerranéens, qui continuent à pratiquer un certain patriarcat. Mais à part l'Europe du Nord, on se rend compte que dans le reste du monde, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'infériorité de la femme continue d'être systématique, la violence aussi, ce qui fait d'ailleurs que certaines jeunes femmes, aussi bien en Chine qu'au Japon, qu'en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, préfèrent encore, quand elles sont diplômées, ne pas se marier. Elles préfèrent vivre seules plutôt que d'entrer dans un système qui va orchestrer leur infériorité vis-à-vis de leur mari, et leur domination, puisque la maternité les fait entrer dans un système de sujétion.
Vous dites quand elles sont diplômées, à condition qu'elles aient pu accéder à la connaissance et à la culture.
Mais tout à fait. Alors, beaucoup d'auteurs africaines aujourd'hui disent ton meilleur mari, c'est le diplôme. Si tu es intelligente, ça c'est la maman de Marjane Satrapi, si tu es intelligente, tu ne feras pas d'enfant. Alors, c'est dommage, parce qu'il ne faut pas que les femmes ne puissent s'accomplir qu'en dehors du mariage et de la maternité. Il faut au contraire réécrire cette relation homme-femme pour que ça puisse se faire à la fois dans l'égalité et la bienveillance. Mais attention, l'égalité n'est pas l'identité. La biologie renvoie la femme à son corps. Alors Simone de Beauvoir disait que si on voulait être libre, il ne fallait pas faire d'enfants. Moi, ce que je dis dans mon manuel de guérison, c'est que non, il faut avoir le droit de faire des enfants. Faire des enfants, c'est un bonheur pour une femme. Le droit d'en faire ou le droit de ne pas en faire, la femme doit être libre de ses choix. Mais faire des enfants ne doit pas la conduire à être infériorisée et maltraitée.
Alors quand on est une jeune femme, qu'on a 18-20 ans et qu'on entend que l'on pense que le prince charmant c'est une arnaque, c'est un peu difficile quand même comme entrée dans la vie.
Oui, vous faites référence à ce chapitre, l'arnaque du prince charmant qui s'ajoute, qui se double de cette punchline au prince charmant préférant son cheval blanc. Non, le souci, et on l'a bien vu avec Disney, c'est qu'on ne peut pas élever les petites filles dans l'idée qui est encore tellement diffusée dans la littérature et dans le cinéma, et notamment le cinéma pour enfants, qu'elle va devoir, cette petite fille, pour s'accomplir, faire la rencontre décisive qui va orchestrer sa vie. Donc les femmes doivent se penser sans béquille affective. Elles doivent comprendre que leur équilibre ne passe pas par cette rencontre décisive, d'ailleurs qu'elle soit masculine ou féminine, hein, parce que je ne me positionne pas du tout d'un point de vue, comme on dit aujourd'hui, binaire, mais il faut être capable de s'assumer. Pour s'assumer, il faut acquérir l'autonomie matérielle. C'est très important aujourd'hui que les femmes ne dépendent pas d'un homme pour leur autonomie économique. Et d'ailleurs, les hommes aussi ne veulent pas que les femmes comptent sur eux pour les prendre en charge. Ils ont besoin de femmes indépendantes et autonomes. C'est le seul moyen d'avoir une relation qui soit une relation apaisée.
Le couple, c'est plus du tout s'appuyer l'un sur l'autre ?
Non, mais le couple, bien sûr, le couple, ça peut être la chose la plus merveilleuse de la Terre si vous avez un partenaire bienveillant et qui est attentif à votre épanouissement. Mais le couple, ça peut être aussi une arène abominable. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous êtes dans un hôtel ou quand vous êtes dans les transports en commun, combien de fois vous entendez des couples se maltraiter? On dirait que l'autre sert de punching ball émotionnel, il a droit à des piques. On dit toujours que les hommes changent de femme parce que finalement ils ont peur du vieillissement de leur femme, mais que les femmes veulent toujours changer leurs hommes. Mais il y a aussi un message de l'autre sens. Acceptons son partenaire tel qu'il est. Et ça nous renvoie à cette idée qui est l'idée qui ouvre le livre, qui est l'idée du kintsugi. Le kintsugi, vous savez, c'est cet art japonais de combler les cicatrices avec de la poudre d'or. Nous sommes tous, au fur et à mesure que nous avançons en âge, des êtres qui avons, comment dire, qui avons été cabossés par la vie, qui portons un certain nombre de cicatrices. Eh bien, ces cicatrices, elles font de nous des êtres uniques. Elles font de nous des êtres qui n'ont nul autre pareil. Et nous devons aimer chez l'autre ses imperfections et ses cicatrices.
Merci Sylvie Brunel. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Manuel de guérison à l'usage des femmes. Un livre qui peut être lu aussi par les hommes, et même que je conseille de lire pour les hommes. On en prend un peu plein la tronche de temps en temps.
Oui, mais c'est de l'humour. Vous êtes d'accord, c'est de l'humour.
On va dire que c'est de l'humour.
Merci beaucoup. Merci de cet entretien qui était formidable.